VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, le monde aujourd'hui, édition du vendredi 4 novembre 2016. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia et Anne Albertson pour commencer les titres.
En République démocratique du Congo, sévère mise en garde de la police contre les manifestations politiques.
En République centrafricaine, le numéro 2 de l'ONU assure à Bangui que les Nations Unies ont tiré les leçons des récentes violences dans le pays.
Au Nigeria, ouverture d'une enquête sur les allégations de viol sur des femmes qui avaient échappé à Boko Haram.
Les troupes irakiennes renforcent leur position aux portes de Mossoul, préparant l'assaut sur le dernier bastion du groupe État islamique en Irak.
Et ne manquez pas notre segment quotidien sur la présidentielle américaine, sans oublier la page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
En République démocratique du Congo, la police a lancé une sévère mise en garde contre les manifestations politiques. L'opposition a promis de tenir demain un meeting populaire à Kinshasa. Des détails avec Eddy Issango.
Dans un communiqué, la police nationale précise que la journée du 5 novembre 2016, c'est-à-dire demain, sera une journée ordinaire et qu'aucune perturbation de l'ordre public ne sera tolérée. Les communiqués ajoutent que des unités de police vont intensifier leur présence dans tous les points chauds et sites stratégiques pour faire observer l'interdiction de l'exercice de toute action à caractère politique non autorisée. Le 25 octobre, Étienne Tshisekedi, l'opposant historique, avait annoncé la tenue d'un meeting populaire sur les enjeux politiques de l'heure, demain à Kinshasa, non loin du siège du Parlement. L'interdiction de toute manifestation en caractère politique jusqu'à nouvel ordre avait été prise à 48 heures après des violences qui ont secoué Kinshasa les 19 et 20 septembre et qui avaient fait au moins 53 morts. Dans ce contexte, une délégation du Conseil de sécurité doit venir dans le pays le 10 novembre pour tenter de faire baisser la tension.
Au Burundi, 4 avocats en exil et activistes des droits de l'homme risquent la radiation du bureau de Bujumbura. Parmi eux, Maître Vital Chimirimana, délégué général du Forum pour le renforcement de la société civile, le plus grand rassemblement de la société civile burundaise. Le barreau a refusé de satisfaire à la requête du procureur général, mais les juges saisis pourraient empêcher ses avocats à exercer leur profession. Selon leur conseil, les 4 activistes visés par Bujumbura représentent les parties civiles des victimes des violences dont les familles ont saisi la Cour pénale internationale.
Les Nations Unies ont tiré les leçons des récentes violences en Centrafrique, a assuré le secrétaire général adjoint de l'ONU en visite à Bangui. Il a promis un plan national pour le relèvement de ce pays, toujours menacé par les groupes armés. Nani Talani.
Yann Eliasson a terminé hier une visite de 3 jours en Centrafrique. C'est juste après l'annonce officielle de la fin de l'opération Sangaris. Les casques bleus doivent maintenant prendre le relais des soldats français. Le responsable onusien a évoqué les violences qui ont fait le mois dernier au moins plus de 70 morts, dont 6 gendarmes à Kagabondoro, Bombari et à Bangui. Le manque de réactivité de la MINUSCA a été mis en cause à Kagabondoro et la société civile avait déjà organisé une journée ville morte pour dénoncer l'inaction de la force onusienne. Nous avons tiré les leçons de ces événements douloureux et ferons tout ce qui est en nos capacités pour prévenir de telles atrocités, a déclaré Yann Eliasson. Il a annoncé un plan de relèvement de la RCIA qui sera présenté à la conférence des donateurs qui se tiendra à Bruxelles le 17 novembre. Les besoins du pays sont estimés à 3 milliards de dollars sur 5 ans.
Le Kenya a accusé l'ONU hier d'avoir cédé à la pression de certains pays pour rejeter la responsabilité des lacunes des casques bleus au Soudan du Sud sur leur commandant kényan. Les précisions de John Linden.
À la suite d'une enquête interne, le commandant kényan de la mission onusienne au Soudan du Sud a été limogé pour sanctionner l'inaction des casques bleus lors des violences de Jieh à Djouba. En réaction, Nairobi a annoncé son retrait de cette mission où opéraient un millier de soldats kényans. L'enquête de l'ONU a été menée avec un a priori et le général Johnson Ontieki a servi de bouc émissaire selon Macharia Kamau, ambassadeur kényan à l'ONU. Il a estimé qu'il s'agissait en fait d'un échec global. La responsabilité devrait donc être collective et s'étendre à la fois au commandement conjoint des unités des casques bleus sur place et à la direction du département de maintien de la paix à New York. Il a qualifié l'enquête onusienne de honteuse et injuste pour rendre responsable un seul individu. Le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, a défendu la décision de Ban Ki-moon, soulignant qu'elle ne visait pas le Kenya, mais seulement le commandement de la force de l'ONU.
Au Nigeria, la police a annoncé l'ouverture d'une enquête suite aux accusations de viol sur des femmes réfugiées dans des camps après avoir fui les violences de Boko Haram. Claire Morin-Gibourg.
Réagissant hier par un communiqué, le chef de la police fédérale, Ibrahim Idriss, s'est dit très inquiet et a désigné une équipe spécifique pour mener une enquête discrète et impartiale sur ces accusations de viol. Le président Muhammadu Buhari s'est dit également inquiet et choqué. La sécurité des camps de réfugiés a été renforcée selon la police. En début de semaine, Human Rights Watch avait porté des accusations de viol et d'exploitation sexuelle perpétrées par des policiers sur des femmes qui ont fui les exactions de Boko Haram. L'ONG américaine dit avoir recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de déplacés autour de Maïdougouri. Elles affirment avoir été abusées sexuellement par des responsables de camps, des policiers et des soldats. Parmi ces femmes, 4 disent avoir été violées et 37 autres qu'elles ont été forcées d'avoir des relations sexuelles avec des responsables en échange de fausses promesses de mariage ou d'aide médicale ou financière.
L'International Crisis Group avertit que la Libye risque de voir exploser un conflit militaire interne majeur si les divisions actuelles ne sont pas réglées. L'ICG a souligné aujourd'hui la nécessité de nouvelles négociations politiques qui impliquent les principaux acteurs sur le plan de la sécurité. Depuis la chute de Muammar al-Kadhafi, il y a plus de 5 ans, la Libye est livrée à des luttes opposant diverses régions et tribus du pays et fait face à la menace des djihadistes.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les troupes irakiennes ont renforcé leur position aux portes de Mossoul, préparant l'assaut sur le dernier bastion du groupe État islamique en Irak. Le chef du groupe, Abu Bakr al-Baghdadi, a exhorté ses djihadistes à lutter jusqu'au martyr. Précision de Jean-Roger Bion.
Dans le village de Gogjali, récemment repris aux djihadistes à la périphérie est de Mossoul, des camions transportant de l'artillerie et des combattants irakiens pour renforcer la ligne de front croisaient des civils fuyant dans le sens inverse. « Dieu merci, nous avons enfin réussi à échapper à ces cochons de Daesh », s'écrie un homme se présentant comme Mohamed. Il était perché sur un camion bondé de familles se dirigeant vers une zone sous contrôle kurde où des organisations humanitaires construisent des camps pour les déplacés. Les forces irakiennes dirigées par l'unité d'élite du contre-terrorisme, CTS, ont nettoyé les villages environnants et sont désormais positionnés à la périphérie de cette ville du nord de l'Irak. Par ailleurs, la teneur du nouveau message d'al-Baghdadi est interprétée par des analystes comme un signe clair de ses craintes croissantes de voir ses djihadistes fuir le champ de bataille ou faire défection. Pour le Pentagone, le chef des insurgés est en train de perdre le contrôle de ses troupes.
En Syrie, une nouvelle pause humanitaire décrétée par la Russie, alliée du régime syrien, devait entrer en vigueur ce matin dans la métropole divisée d'Alep. Mais on doute encore que cette trêve donne des résultats, dans la mesure où elle a été décrétée pour 10 heures seulement. Pour l'ONU, les opérations humanitaires ne pouvaient pas être subordonnées à des initiatives politiques ou militaires. La précédente pause humanitaire de 3 jours avait expiré le 22 octobre sans avoir permis l'évacuation de civils et de blessés, ni le retrait des combattants.
Ici aux États-Unis, à 4 jours de l'élection présidentielle, le camp démocrate observe avec inquiétude les nombreux sondages qui montrent que la partie est encore loin d'être gagnée pour leur candidate Hillary Clinton. Alors que tous, ou presque, lui accordaient, il y a 10 jours encore, une confortable avance sur son adversaire républicain, cet écart semble avoir fondu à la grande satisfaction des partisans de Donald Trump, son adversaire républicain. L'annonce vendredi dernier de la réouverture de l'enquête du FBI sur les courriels de l'ancienne secrétaire d'État a semé le doute chez de nombreux électeurs démocrates. Nous reviendrons sur cette présidentielle du 8 novembre dans la seconde partie de cette édition.
Toujours aux États-Unis, un condamné à mort qui devait être exécuté hier dans l'Alabama a obtenu un sursis de dernière minute de la Cour suprême à Washington. Thomas Archer, 74 ans, devait recevoir une injection létale dans sa prison d'Altmore à 18h, soit 22h GMT. Il avait été reconnu coupable d'un meurtre commis en 1982.
En Corée du Sud, la présidente Park Geun-hye a accepté aujourd'hui d'être entendue par le parquet dans le cadre d'une enquête sur un retentissant scandale politique. Cette affaire continue de défrayer la chronique. Dans son deuxième discours à la nation en 10 jours, Mme Park a reconnu sa responsabilité dans le scandale qui implique son ancienne confidente, soupçonnée de fraude et de s'être mêlée aux affaires de l'État. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Talani.
Les recettes touristiques en Tunisie ont enregistré au cours des 9 premiers mois de l'année une baisse de plus de 8% par rapport à la même période en 2015. La chute atteint 34,1%, une conséquence des attaques djihadistes qui avaient fait 60 morts, dont 59 touristes étrangers. Avant la révolution de 2011, le tourisme représentait près de 10% du PIB tunisien, alors qu'il est désormais inférieur à 7%. Le conseil d'administration de la Banque africaine de développement a approuvé hier un prêt de 900 millions d'euros à l'Algérie. C'est le premier à être sollicité par Alger auprès de l'institution financière panafricaine depuis 2006. Le pays essaie de mettre sur les rails une transformation structurelle de son économie. Selon Jeune Afrique, les revenus pétroliers algériens ont été divisés par 2 depuis le début de la chute des cours. À 62 milliards de dollars en 2014, ils ne devraient pas dépasser 25 milliards à la fin de 2016. L'Égypte a décidé de laisser flotter sa devise pour répondre à une crise monétaire aiguë qui frappe son économie et menace de relancer l'instabilité politique plus de 5 ans après la révolution de 2011. Cette décision devrait provoquer une forte baisse de près de 50% de la livre égyptienne face au dollar. Le Fonds monétaire international s'est déjà alarmé de la crise monétaire que traverse la deuxième économie du monde arabe après l'Arabie saoudite.
À présent, les sports avec Nicolas Pineau. Nicolas, bonjour.
Bonjour Idrissa.
Suite du tour du Faso en cyclisme.
Haruna Ilboudo reste en jaune à l'issue de cette 7e étape courue entre Bobo Dioulasso et Banfora, 84 km. Cette étape a été enlevée au sprint par l'Érythréen Abraham Meron.
4e journée de l'Europa League.
Manchester United a de nouveau été battu, cette fois 2-1 par Fenerbahçe lors de la 4e journée du groupe A de l'Europa League. À Istanbul, l'entraîneur José Mourinho a dû remplacer l'international Paul Pogba, sorti du terrain en boitant. Les Red Devils occupent la 3e place du groupe à 1 point du duo de tête composé de Feyenoord et de Fenerbahçe. La crise couve chez les Rouges puisque Manchester United est également en difficulté en championnat avec 4 matchs sans victoire, dont une lourde défaite contre Chelsea 4-0. D'autres résultats hier soir, le Zénith Saint-Pétersbourg qui bat Dundalk 2-1 et se qualifie pour les 16e de finale. Le carton de la soirée, les Belges d'Anderlecht n'ont pas été tendres avec Mayence, victoire 6-1. Facile victoire également de l'Athletic Bilbao, 5-3 contre Genk. Match nul, 2-2 entre Sassuolo et le Rapide de Vienne. Enfin, la belle victoire à l'extérieur de l'AS Roma, cette fois contre l'Austria de Vienne, 4-2. Enfin Idrissa, on vous fait parler de basket comme chaque matin. Les résultats de la NBA, le championnat de basket nord-américain.
Sacramento 94, Orlando 102, Indiana 107, Milwaukee 125. Denver 102, Minnesota 99, Boston 122, Cleveland 128.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Au micro, Idrissa Sidoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous l'avons dit, une délégation du Conseil de sécurité des Nations Unies doit se rendre en République démocratique du Congo le 10 novembre pour demander au président Joseph Kabila de ne pas se représenter en troisième mandat. Selon des ambassadeurs des pays membres du Conseil, un appel sera également lancé pour un dialogue plus inclusif. Eddie Sango a joint pour une analyse le président du Centre d'études politiques et stratégiques et ancien porte-parole du président Joseph Kabila, Moulegwa Zihil Dindunda, qui est en visite à Washington.
Je suis au courant de la visite programmée du Conseil de sécurité, mais je crois que pour les gens de dire que le président Joseph Kabila a l'intention de se représenter pour un troisième mandat, alors que le président a dit à tout le monde qu'il va respecter la Constitution. Et la Constitution de la République démocratique du Congo ne prévoit pas un troisième mandat. Alors je ne sais pas dans quel cadre les gens pensent que le président Joseph Kabila va se représenter encore. Je crois que ça c'est un faux débat, le dossier de dire que le président Joseph Kabila va se représenter. Comment peut-il se représenter encore alors que lui-même a dit qu'il va respecter la Constitution et la Constitution ne prévoit pas un troisième mandat. Alors, je ne sais pas dans quel cadre les gens pensent qu'il peut se représenter.
Il y a quand même des faits qui disent ou des tentatives de genre de son entourage ou de sa famille qui montrent qu'il y a une certaine velléité. La non-tenue des élections selon les délais de la Constitution, des déclarations de ses proches, même des tentatives de changement de constitution, tout cela, d'après vous, ne constitue pas des signes qui poussent les autres à attendre qu'ils s'expriment clairement?
Non, mais le président de la République s'est déjà exprimé clairement à plusieurs fois en disant qu'il va respecter la constitution et c'est là le cas. Si vous parlez aujourd'hui de l'impossibilité d'organiser les élections dans les délais constitutionnels, c'est la raison pour laquelle un dialogue politique inclusif souhaité par toutes les parties a été convoqué par la facilitation internationale conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc, même les membres du Rassemblement souhaitaient un dialogue et le président de la République a convoqué un dialogue conformément à la résolution 2277 du Conseil de sécurité des Nations Unies.
Monsieur Saïd Djinit, qui est les Nations Unies, a dit clairement qu'il faut un accord plus inclusif. On a parlé des ambassadeurs qui viennent, ils l'ont annoncé, pour demander un dialogue plus inclusif. Est-ce que vous pensez qu'on va dans ce sens-là?
On ne peut pas forcer quelqu'un de participer à un dialogue. Ça, c'est un dialogue inclusif, à notre avis, puisqu'il y a eu la représentation de la société civile, il y a eu la représentation des gens de l'opposition, et bien entendu, il y a eu aussi la représentation des gens de la majorité. Tout ce qui a été comme problème, tout ce que les gens du Rassemblement ont souhaité, a été aussi traité au dialogue.
C'était Moulegwa Zihindula, ancien porte-parole du président Joseph Kabila et président du Centre d'études politiques et stratégiques.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Lubumbashi, c'est sur 102.8 FM en République démocratique du Congo.
Au Tchad, la date prévue pour la rentrée académique remonte déjà à 2 mois et les étudiants n'ont toujours pas repris le chemin des universités et autres établissements d'enseignement supérieur. Établissement qui reste fermé suite à la grève lancée par la plateforme de revendication syndicale d'N'Djamena, notre correspondant André Kotmajingar.
Les premières victimes de ces débrayages sont les élèves et étudiants qui ne regagnent pas les classes et les amphis. Au lycée Félix Eboué, les responsables confirment que les inscriptions sont suspendues car les parents n'ont pas gagné et donc il est difficile pour eux d'inscrire leur progéniture. Au lycée d'enseignement technique commercial, en revanche, les portes de l'administration et les salles de classe sont hermétiquement fermées. Cette situation ouvre la voie aux rumeurs qui circulent selon lesquelles l'année scolaire et académique 2016-2017 seront blanchies si les cours ne reprennent pas d'ici mi-novembre. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, Dioulné Laurent, réfute cette allégation.
Nous, notre souci aujourd'hui, c'est de sauver la rentrée scolaire. Nous ne parlons pas encore en termes de l'année scolaire, mais que les cours puissent reprendre sur l'ensemble du territoire pour permettre aux enfants de reprendre le chemin de l'école. Et c'est à partir de progression qu'on peut évaluer et parler de l'année scolaire. Nous avons des stratégies que nous avons adoptées et nous attendons que les partenaires lèvent leur mot d'ordre de grève pour qu'ensemble avec eux, nous puissions voir que faut-il faire pour rattraper les heures perdues.
Pour Girayo Jérémy, président du syndicat national des anciens et chercheurs du supérieur, membre de la plateforme de revendication syndicale, même si l'année scolaire est sauvée, il n'en demeure pas moins vrai de sauver l'année académique.
Si les choses rentrent dans l'ordre avant le 15 novembre, je pense qu'au niveau secondaire, on peut décaler les examens et essayer de rattraper l'année scolaire 2016-2017. Mais au niveau du supérieur, ça serait un peu difficile. Est-ce qu'il y aura lieu d'étudier l'autre année qui n'est pas finie dans celle qui vient de commencer? Ou bien est-ce qu'il faudrait déclarer cette année blanche et repartir sur les nouvelles bases? Ça, c'est une réflexion qu'on est en train de faire. Pour mettre fin à cette crise, il faudrait que les Tchadiens s'assiedent. Ils analysent la situation et ils trouvent des solutions.
Toutefois, Diouné Laurent, secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, se dit optimiste quant à la reprise des activités scolaires.
Tout le monde est parent d'élèves et cette crise touche tout le monde. Donc par conséquent, chacun mettra un peu de l'eau dans son vin pour permettre à nos enfants de reprendre le chemin de l'école. L'année scolaire se situe dans un temps, ce n'est pas l'année civile. Et il y a même encore quelques salles de classe à l'air libre. Et ces salles de classe ne peuvent pas fonctionner pendant la saison des cours. Donc nous devons en tenir compte de ces contraintes pour que nous puissions démarrer l'année scolaire.
André Kodmadjingar Ndiamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24h/24 sur VOA Afrique, Ndiamena au Tchad sur 93.1 FM.
Bénin, plus de 5 jours après sa mise en garde à vue, le roi de la volaille, comme se fait appeler Sébastien Ajavon, est toujours gardé à la brigade territoriale de Cotonou. L'homme d'affaires béninois et 3 des agents de sa société de distribution des produits agroalimentaires, Cajaf Comon, y séjourne depuis la découverte de 18 kilos de drogue dans un des conteneurs de cette société au port autonome de Cotonou. L'affaire prend des proportions inquiétantes quant à la cohésion sociale, nous dit notre correspondante sur place, Ginette Fleur Adandé.
Ce fut une onde de choc depuis le vendredi 28 octobre dernier où Sébastien Ajavon est placé en garde à vue. Très tôt, la Russie MLA pointant du doigt le gouvernement actuel comme étant le commanditaire d'une telle chose. Même si à tous les niveaux, la clairvoyance semble avoir déserté le forum, certains restent la tête hors de l'eau pour réfléchir de façon sereine. C'est le cas de Rachidi Gbadamassi, député ami et allié de Sébastien Ajavon qui invite le chef de l'État et l'opérateur économique à ne pas se laisser prendre au piège qui leur est tendu.
Il y a absolument une main invisible qui tisse la ficelle. Cette main invisible agit pour opposer et faire rivaliser deux puissances économiques. J'ai la ferme conviction que le président Patrice Talon ne peut jamais détruire Sébastien Ajavon. Ça, c'est clair. De même, j'ai la ferme conviction que M. Sébastien Ajavon ne peut jamais être impliqué dans une affaire de drogue.
Alors que tout le monde s'attendait à une audition de l'homme par le procureur, c'est à la présentation des faits que les Béninois ont assisté. Après avoir donné les raisons pour lesquels les 3 agents et leurs supérieurs hiérarchiques sont gardés, le procureur a tenu à apaiser les populations en ces termes.
En raison de ce que seul le parquet a en l'état pouvoir de s'exprimer sur les affaires dont est saisie la justice, je me ferai le devoir, pour autant que ce sera nécessaire au droit du citoyen à être informé et en conformité avec la législation en vigueur, de vous faire part tant opportun des suites de la procédure. J'invite tout le monde au calme.
Le Collège des avocats de l'homme d'affaires voit dans les propos du procureur une intention manifeste de nuire.
Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Ajavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. La garde à vue de M. Sébastien Ajavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire.
Dans la rue, on s'énerve, on crie au complot, on brûle des pneus et on s'inquiète de cette façon insensée avec laquelle les choses évoluent. Il faut dire que c'est un vendredi de toutes les incertitudes qui se lèvent ce 4 novembre. Soit Sébastien Ajavon est remis en liberté au terme du nombre de jours de garde à vue prévu par la loi ou alors il est déféré. Et dans ce second cas, Cotonou risque de s'embraser au regard des soubresauts observés depuis le 28 octobre dernier. De Cotonou, Ginette Fleur Adandé pour VOA Afrique.
Au Cameroun, les travailleurs de la China First Highway Engineering Company sont en grève. L'entreprise est en charge de la construction de l'autoroute reliant la capitale économique Douala et la capitale politique Yaoundé. Ses employés l'accusent de mauvais traitement et de non-respect de leurs conditions de travail. Reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé.
Ils sont près de 200 travailleurs de la China First Highway Engineering Company qui ont décidé d'abandonner la construction de cette autoroute en pointant un droit accusateur sur leur employeur qu'ils accusent de mauvaise gestion du personnel, de non-paiement des salaires et de non-respect des termes du contrat. Certains d'entre eux expriment leur mécontentement.
Il ne peut pas se faire qu'on t'embauche comme manœuvre. Tu pars au chantier, tu es ferrailleur, tu es coffreur, tu es maçon, tu es électricien, tu es tout. Alors qu'on te donne un C comme catégorie.
Moi, je revendique qu'on nous amende le salaire. Tu viens avoir un papier qui explique que tu es un technicien. Mais le papier, on ne reste pas au papier. On travaille 10 heures, on coupe les heures même. Et si tu manques, on travaille dimanche ici, ça commence le problème. Les jours fériés ici, c'est obligatoire.
D'autres, par ailleurs, réclament la nomination d'un Camerounais à la direction des ressources humaines.
Nous réclamons un directeur des ressources humaines camerounais, la mise en application du code du travail camerounais et de la législation camerounaise, la mise en œuvre et la mise en application de la convention collective en intégrale.
Il y a les catégories 21, les catégories 30, c'est des choses qui n'existent pas. Les heures sont mal calculées. Les heures supplémentaires ne sont pas respectées.
Malgré les négociations avec les autorités publiques, ces derniers maintiennent leur décision de ne pas retourner au travail tant que leurs réclamations n'auront pas reçu de suite favorable. Un avis que soutient Jean-Marie Zambo Amougou, président de la Confédération syndicale des travailleurs du Cameroun.
En réalité, les normes internationales du travail ratifiées par le Cameroun ne sont pas respectées. La législation nationale en matière du travail n'est pas respectée. Les problèmes de protection sociale, c'est-à-dire l'affiliation à la CNPS, n'est pas respectée. Les cotisations sociales ne sont pas reversées à la CNPS.
Suite à l'inertie des responsables de la China First Highway Engineering Company, ceux-ci n'ont pas pu trouver le sommeil cette nuit, car réveillés par les bruits de tam-tam que tapaient les grévistes. Ces derniers, par la suite, auront pris la fuite du camp où ils se trouvaient. Rappelons que cet incident visant une entreprise chinoise n'est pas le premier du genre. Elle a déjà subi le même traitement sur plusieurs chantiers à l'est du pays. Moki Edwin Kinzeka pour VOA Afrique, Yaoundé.
Présidentielle américaine 2016, la démocrate Hillary Clinton, le républicain Donald Trump et leurs partisans mettent les bouchées doubles à 4 jours de l'élection. Anastasie Toudiech.
Barack Obama revient à la charge. Le chef de l'exécutif américain a déclaré devant une foule de partisans à Miami que pour lui, le candidat républicain Donald Trump est singulièrement non qualifié pour être président et qu'il est, de par son tempérament, inapte à diriger l'armée. Si nous gagnons la Floride, nous gagnons cette élection, a assuré le président américain qui s'est rendu ensuite en Caroline du Nord, autre état décisif de cette présidentielle. Il faut dire que les milliers d'Hispaniques de la Floride soutiennent Hillary Clinton et qu'ils sont très remontés contre Donald Trump qui a promis d'expulser tous les sans-papiers. De son côté, le candidat républicain en Caroline du Nord jeudi continue de tirer à boulets rouges sur sa rivale. Pour Donald Trump, la candidate démocrate est engagée dans une entreprise criminelle en rapport avec ses emails et elle fera probablement l'objet d'une enquête sur plusieurs années.
Anastasie, pour la première fois depuis la convention républicaine à Cleveland, Donald Trump a fait appel à son épouse.
Oui, Melania Trump s'est adressée aux partisans de son mari dans la banlieue de Philadelphie. Elle a promis, si elle devenait première dame, qu'elle ferait des femmes et des enfants sa priorité et s'engagerait contre le harcèlement dans les écoles. Et Madame Trump d'ajouter
« Our culture has gotten too mean and too rough. Especially to children and teenagers.
Notre culture est devenue trop dure et trop méchante et nous devons trouver une autre manière de nous parler. Deux sondages d'opinion publiés hier jeudi donnent un léger avantage à Hillary Clinton.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. Merci aussi à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington, bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.